maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Il est 13h sur Europe 1, on fait un point sur l'actualité avec Cédric Chasseur. Bonjour Cédric.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. 67% des Français favorables à l'instauration d'un couvre-feu à partir de 23h pour les mineurs. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. C'est l'une des solutions mises en avant pour répondre à l'ultra-violence des jeunes. Demain, le Premier ministre Gabriel Attal sera à Nice pour visiter un internat. Il a proposé vendredi de lancer un Grenelle des violences des mineurs, indiquant qu'il fallait un sursaut d'identité. Invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, Malika Sorel, numéro 2 de la liste RN pour les européennes, a fustigé l'impuissance du gouvernement face au fléau de cette hyperviolence chez les jeunes. Pour elle, la France est déjà entrée en guerre civile.
Les principes qui structurent l'identité d'un peuple doivent être respectés sur un territoire donné, et je l'ai toujours traduit en disant on ne bouscule pas un peuple sur son territoire. Parce qu'il y a ce que moi j'ai appelé l'inconscient collectif des peuples, et ça, vous ne pourrez rien faire contre. Et tant que le politique, et là ça fait 40 ans que le politique agit à rebours de cet imaginaire, de cet inconscient collectif des peuples, un jour, et c'est l'enjeu, un jour les peuples vont se réveiller. Claude Lévi-Strauss, que disait-il ? Que les peuples ne vivent pas trop près les uns des autres, sinon c'est la guerre.
Oui, mais alors c'est le côté de le face à face.
Que vous nous annoncez, Madame Sorel, en France ?
Mais elle a des, vous pensez qu'elle n'a pas déjà commencé ?
Elle a commencé, la guerre civile a commencé.
Absolument.
Malika Sorel dans le grand rendez-vous, qui a également dénoncé le clientélisme électoral de Jean-Luc Mélenchon, qui a nourri, selon elle, le communautarisme et le séparatisme. Le chef des Insoumis qui doit participer à une manifestation à Paris à partir de 14h contre le racisme, l'islamophobie et pour la défense des minorités. Une marche jugée sensible par le renseignement qui craint des débordements. 95 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide américaine enfin débloquée par la Chambre des représentants pour Israël, Taïwan et l'Ukraine. Une aide cruciale selon Joe Biden, le président des États-Unis. Pour la Russie, cette décision va exacerber les crises mondiales. La fin des vacances pour l'Île-de-France, la région est en orange selon Bison Futé. Pour les retours, attention dans l'ouest francilien, la 13 est toujours fermée et ce jusqu'à demain soir au moins entre Paris et Vaucresson. Enfin, en Formule 1, il y a Max Verstappen et les autres. Le Néerlandais remporte ce matin le Grand Prix de Chine sans trembler. Il devance notamment Lando Norris et son coéquipier Sergio Pérez. Il est 13h03 sur Europe 1. Vous retrouvez Aymeric Pourbet pour Enquête d'Esprit.
Merci Cédric. Prochain point sur l'actualité sur Europe 1, ce sera à 14h.
13h, 14h, Enquête d'Esprit. CNews, Europe 1. Aymeric Pourbet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit sur Europe 1 et CNews. Enquête d'Esprit, l'actualité avec un regard spirituel. Elles connaissent un succès foudroyant en librairie et auprès du grand public. Elles, ce sont les nouvelles spiritualités, comme on les appelle, qui recouvrent un ensemble un peu fourre-tout, la magie, la sorcellerie, le spiritisme et même le développement personnel. Qui sont-elles ? Que sont-elles réellement ? Des déviations de la spiritualité, un appauvrissement, voire une nouvelle religion ? Et leur succès serait-il un signe de crédulité dans une époque d'incroyance ? En tout cas, pour l'Église, l'enjeu est capital. Face à cette concurrence, il s'agit pour elle de se réapproprier des trésors oubliés de sa propre spiritualité. Et pour parler de tout cela, Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Nous accueillons le père Jean-Christophe Thibault, également Adrien Bourg, universitaire historien. Et puis pour témoigner, Guillaume-François Salin.
Voilà, et tout cela, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos religieuses de la semaine, Audrey Berthaud.
13h, 14h, CNews Europe 1, en quête d'esprit. Aymeric Pourbet.
Bonjour Audrey, pour commencer, eh bien, on parle de la fête la plus importante dans le judaïsme.
Oui, bonjour Aymeric, bonjour à tous. En effet, demain ce sera Pessah, la Pâque juive. On vous décrypte cette fête religieuse. D'où vient-elle? Quels sont ses symboles et ses traditions? Pour y répondre, nous sommes rendus à la synagogue de Neuilly-sur-Seine avec Raphaël Lazreg, le rabbin Michael Azoulay a répondu à nos questions.
C'est l'une des fêtes les plus importantes de la religion hébraïque. Pessah, ou la Pâque juive, débute cette année lundi 22 avril et durera 8 jours en France. Une fête qui représente l'exode des Hébreux après avoir fui l'esclavage en Égypte.
C'est une fête qui commémore un événement fondateur de l'identité juive qui est l'exode d'Égypte. Alors en fait dans la tradition juive on croit qu'il y a eu une époque où les Hébreux ont été esclaves en Égypte. Et puis ensuite ils ont été libérés d'Égypte par la main de Dieu avec un envoyé de Dieu qui était Moïse. Et donc on raconte qu'il y a eu des plaies qui se sont abattues, 10 fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte et qui ont permis ensuite au peuple d'Israël de sortir d'Égypte.
De nombreuses traditions existent. Il est par exemple interdit de consommer des aliments à base de levain en souvenir du départ précipité d'Égypte qui n'avait pas permis aux Hébreux d'attendre que le pain ne soit levé.
On appelle ça la nourriture de la foi, c'est-à-dire que le pain azim, c'est la nourriture qui exprime en fait la croyance en un Dieu, pas seulement créateur du monde, mais qui intervient aussi dans l'histoire. Alors soit de manière éclatante, manifeste, comme c'était le cas en Égypte, soit parfois de manière cachée, dissimulée, au cours de l'histoire. Voilà ce que symbolise ce qu'on appelle la matzah, pain azim en français.
Si cette fête célèbre la libération, elle résonne de manière particulière cette année, avec plus de 100 personnes, toujours retenues otages à Gaza.
Et après les attaques entre l'Iran et Israël, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité aux abords des synagogues et des écoles juives. Gérald Darmanin souhaite une présence statique et visible des forces de l'ordre devant ces édifices. Et justement, après ces attaques de ces derniers jours entre l'Iran et Israël, face à ce risque d'embrasement, le pape François s'est adressé aux fidèles dimanche dernier. Il a lancé un appel pressant contre une spirale de violence risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grand.
Je suis dans la prière et avec inquiétude, voire avec tristesse. Ces dernières heures, nous avons appris que la situation en Israël s'aggravait en raison de l'intervention de l'Iran. Je lance un appel pressant pour que cesse toute action susceptible d'alimenter une spirale de violence qui risquerait d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grand.
Et quelques jours après l'attaque au couteau survenue le 15 avril dans l'église assyrienne de Christ Bon Pasteur à Sydney, le prêtre attaqué, blessé à la tête et à la poitrine, a diffusé un message sur YouTube. Il s'adresse à ses fidèles afin de les rassurer sur son état et il annonce également pardonner à son agresseur. Écoutez-le.
I'm doing fine.
Je vais bien, je récupère très rapidement. Nous remercions le Seigneur Jésus. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Notre Seigneur Jésus a dit, ne rendez jamais le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Peu importe ce qu'il m'arrive, je remercie le Seigneur Jésus. C'est une immense bénédiction pour moi. Je pardonne celui qui a commis cet acte et je lui dis, tu es mon fils. Je t'aime et je prierai toujours pour lui. Et quiconque vous a envoyé pour faire cela, je lui pardonne également, au nom puissant de Jésus.
And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' mighty name.
Enfin, 5 ans après le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, le chantier avance pour sa réouverture. Elle aura lieu le 8 décembre 2024. Plusieurs points clés vont rythmer les prochains mois. On fait le point avec Naomi Hardy.
Pour inaugurer en décembre l'ouverture de Notre-Dame, les 8 prochains mois de travaux sont décisifs. D'ici cet été, les toitures de la nef, du chœur et de la flèche, ainsi que la restauration des sols, doivent être achevés. Pendant les 6 prochains mois, les 8000 tuyaux du grand orgue sont nettoyés et reposés, en même temps que leur harmonisation. Le mobilier liturgique, les reliquaires et leurs dispositifs de sûreté, les chaises de la cathédrale, les habits liturgiques et les 1600 points de lumière sont encore en cours de réalisation. Les trésors trop abîmés par le sinistre, eux, trouveront leur place dans un futur musée Notre-Dame. Il sera installé dans l'Hôtel-Dieu, à 2 pas de la cathédrale.
Et voilà, Aymeric, pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous pour Enquête d'Esprit.
Merci Audrey Berthaud. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit des nouvelles spiritualités. Alors qu'est-ce que c'est justement ? On va essayer d'y voir clair là-dedans. En tout cas, c'est un défi pour l'Église de répondre justement à cette soif qui s'exprime au travers donc de toutes ces marques de religiosité. Alors on peut citer la magie, la sorcellerie, le spiritisme, bref. On va essayer d'y voir clair avec le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Metz et vous êtes l'auteur notamment des nouveaux visages de l'ésotérisme. C'est publié chez Arthej. Vous faites aussi beaucoup d'accompagnement de personnes qui sont concernées par ces phénomènes. Vous nous en parlerez. Avec nous également Adrien Bourg. Bonjour.
Bonjour Émile Pourbet.
Vous êtes universitaire à Bordeaux, historien. Notamment, vous avez fait votre thèse sur Frédéric Lenoir, qui est un des auteurs les plus connus et qui vend le plus de livres dans ce domaine. Et vous êtes l'auteur de Le christianisme, justement, au défi des nouvelles spiritualités. C'est publié chez Arthej. Et puis également avec nous Guillaume-François Salin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur adjoint à la pastorale dans un établissement catholique à Arcachon, mais vous êtes aussi le responsable du catéchuménat. Alors le catéchuménat, ce sont ceux qui se préparent à être baptisés adultes justement, et là il y a un défi évidemment de formation. Vous avez aussi été baptisé, vous nous raconterez, il y a 7 ans à 21 ans, et puis vous êtes formé en psychologie, donc évidemment on essaiera d'y voir clair aussi, est-ce que c'est de la spiritualité ou de la psychologie. Alors Véronique, très heureux de vous retrouver, vous allez nous aider justement pour commencer à nous y retrouver dans ce fourre-tout un petit peu de ce qu'on appelle les nouvelles spiritualités. D'ailleurs, est-ce que l'appellation est bonne ? On en parlera, mais déjà, qu'appelle-t-on ces nouvelles spiritualités ?
Alors, la notion de nouvelle spiritualité renvoie à des pratiques et à des croyances extérieures au christianisme, parce qu'on dit nouvelle spiritualité, mais ce n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, par exemple, on pensait au bouddhisme, à l'émergence des philosophies orientales, mais aussi au spiritisme qui était alors très en vogue. Et de nos jours, on peut dire qu'on met dans ce fourre-tout ce qui correspond à une forme de religion utilitaire qui fait du bien. Cela peut être le yoga, le chamanisme, l'engouement pour les traditions amérindiennes, ou encore le fait de se prendre pour une sorcière, ça c'est assez à la mode, hein. Selon un sondage IFOP, 18% des Français croient aux sorcières, mais quand on demande à chacun une définition, eh bien chacun a sa propre définition, donc on voit que ça reste quand même très flou. Donc en fait, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement ces nouvelles spiritualités ? Eh bien, premièrement, elles placent l'homme au centre. L'homme, c'est l'alpha et l'oméga, c'est plus Dieu. C'est plus Dieu qui est au centre d'une vie, ce n'est plus Dieu dont on se nourrit de la parole et dont on est à l'écoute, on est finalement à l'écoute de son ego, puisqu'on est dans l'ère de l'ego. Et donc, en vogue, le développement personnel, le coaching spirituel pour trouver le bien-être et acquérir une sagesse joyeuse, sans aborder aucune question qui fâche de préférence. La voie de la conscience est la seule boussole. On ne se met pas sous le regard de Dieu. Ça, c'est terminé. Deuxièmement, démarche solitaire, alors que la religion traditionnelle se transmet en principe familialement, communautairement, en tout cas de génération en génération. Religion, ça veut dire relier, se relier les uns aux autres en principe. Et puis troisièmement, il a l'idée d'accéder à une dimension transcendantale sans intermédiaire. Donc il y a cette illusion d'un accès à une vérité plus vraie, plus profonde, parce que j'ai pas besoin d'interface, avec la transcendance. On ne parle pas forcément de Dieu, on parle de transcendance. Et cette idée d'ailleurs d'aller directement à la source peut amener au fait d'être lié à des vérités cachées. Et donc là on touche à l'ésotérisme et vous allez nous dire de quoi il s'agit précisément. Enfin, une nouvelle dimension apparaît à travers certaines nouvelles spiritualités comme la méditation de pleine conscience ou le yoga. En fait, c'est un moyen pour garder un corps en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche de la santé se confond désormais avec la quête spirituelle.
On n'est plus dans la recherche de la sainteté, mais de la santé. Alors, voilà. On va reprendre tous ces éléments. Merci beaucoup, Véronique. Première question pour vous, Adrien Bourg. Donc, on a l'impression, effectivement, d'une nébuleuse, mais est-ce qu'il y a un fil rouge ?
Oui, justement, il y a un fil rouge et les termes qu'on emploie pour parler de ces nouvelles spiritualités sont un peu trompeurs. Nouvel âge, new age, nouvelle religiosité, nouvelle spiritualité. En réalité, dès qu'on remonte les chaînons de chacun des courants en question, on se rend compte que il y a des courroies de transmission, des personnes qui les ont transmises, portées, et des ancêtres, encore des ancêtres, et on peut remonter comme ça jusqu'à une période qui est une période charnière, qui est la période de la Renaissance. Et donc, nouvelle spiritualité, non, parce qu'il y a toute une épaisseur historique qui se présente sous l'aspect de courants, d'une multitude de courants concurrentiels à l'égard de la religion catholique.
Donc la nouveauté n'en est pas vraiment une, quoi.
La nouveauté n'en est pas une.
On va y revenir. Guillaume-François Salin, est-ce qu'il y a aussi un mélange entre la psychologie et la spiritualité là-dedans ?
Oui, beaucoup. Je me suis formé à plusieurs thérapies, on en parlait avant, l'hypnose ericksonienne, etc. Et en fait, même des personnes qui sont universitaires, formées en psychologie, il y a tout qui est mélangé. Comme il n'y a pas une vraie vision de l'homme et que la spiritualité devient une affaire privée, personnelle, mais en fait, tout se greffe. Donc moi, je pouvais aller être formé en hypnose, donc on va parler que de concepts psychologiques. Et d'un coup, on me parle d'énergie. Alors ça commence souvent comme ça, d'énergie, d'ondes, dans ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, qu'on peut percevoir une autre réalité. Quelle réalité ? Donc, en effet, la frontière est poreuse. Il y a vraiment une porosité entre les deux, quoi.
Justement, le mot énergie, Père Jean-Christophe Thibault, il revient souvent hein, quand on parle de ces nouvelles spiritualités. Véronique parlait de la transcendance, la question de la transcendance, mais finalement, de quoi parle-t-on exactement ?
Eh bien, c'est toute la difficulté, parce que les termes d'abord évoluent, parce qu'on n'a pas toujours parlé d'énergie. Alors très clairement, toutes ces notions d'énergie ne sont pas des énergies physiques. Ce sont des énergies spirituelles ou des énergies immatérielles. Et ça remonte globalement, il y a une source, on pourrait dire presque historique, c'est le magnétisme animal, donc d'Anton Mesmer, qui a lancé cette idée que notre monde était baigné d'une certaine, ce qu'on a appelé énergie par la suite, ça n'avait pas toujours ce terme-là, qui consonne bien avec certaines pensées orientales, qu'on appelle le chi en Chine, le prana en Inde, le ki, bon, peu importe, de cette existence d'une énergie. Mais de quelle énergie parle-t-on ? Et on est vraiment souvent dans le régime de la confusion. Aujourd'hui.
Mais une confusion qui est entretenue, alors, d'une certaine manière.
Oui, qui est entretenue, parce que finalement, on se pique un peu de science. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est la physique quantique. Donc, il y a une passerelle vers la psychologie, il y a une passerelle vers la science, mais alors revue et corrigée. Et souvent très simplifiée, de manière à pouvoir finalement illustrer ou donner une certaine cohérence ou en tout cas une certaine valeur à toutes ces recherches autour de l'énergie, manipulation de l'énergie.
Adrien Bourg, pardon, 15% de la population, semble-t-il, est adulte et concernée par ces nouvelles spiritualités. Comment on explique ce succès ? Est-ce qu'il y a une certaine facilité d'accès, justement, du fait de cette confusion entretenue, qui fait qu'on se prête facilement à ce jeu-là ?
Alors, en réalité, c'est très difficile à quantifier parce que les croyances et les pratiques n'appartiennent pas à quelque chose qui serait clairement circonscrit. Il n'y a pas d'acte de foi, il n'y a pas de credo.
Il y a certificat de baptême.
Il n'y a pas de pratique normative. Et parfois, ce sont des personnes qui, par ailleurs, appartiennent à une religion ou disent appartenir à une religion et qui ont ce type de pratique. 15%, c'est un chiffre approximatif. Et c'est aussi le chiffre des gens qui, d'après une enquête menée à la demande du Syndicat National des Enseignants de yoga, 15% c'est aussi le pourcentage de gens de la population adulte qui pratiquent le yoga de façon régulière, une à deux fois par mois minimum. Donc c'est quelque chose d'assez massif qu'on peut aussi repérer avec les enquêtes qui concernent les croyances. On a à peu près un quart de la population française qui croit en la réincarnation, non pas en la résurrection de la chair comme dit le credo, mais en la réincarnation. Donc c'est un phénomène quand même assez massif, mais difficile à saisir, à quantifier, précisément parce que, faute d'un regard historique qui montre les étapes, les courroies de transmission et le fait que ça appartient à un tronc commun, donne l'impression de quelque chose de très éclaté, de très... un archipel ou une nébuleuse, c'est les formules un peu classiques qu'on emploie.
Véronique Jacquier.
Massif.
Prenons l'exemple du yoga, parce que effectivement c'est très en vogue. On peut dire qu'il y a une notion de bien-être, enfin c'est pas répréhensible d'ailleurs de chercher à se faire du bien et de prendre soin de son corps. Donc où est en fait le distinguo entre la notion de bien-être et le fait que ça s'apparente à une démarche spirituelle ? Et en quoi d'ailleurs ça pourrait être un brin contestable ?
Alors, pour comprendre cela, il faut regarder ce qu'est le yoga en soi, dans son lieu de naissance originelle, qui est l'Inde et le monde de la religion hindoue. Et le yoga, dans la perspective hindoue, est une pratique ascétique, qui se transmet de maître à disciple de façon très parcimonieuse, et dont le but est de sortir du cycle des réincarnations. Sachant que dans cette logique-là, la réincarnation est une malédiction. On essaye de sortir de la vie et de se réunifier avec le principe ultime, sous un mode qui n'est pas celui de la communion chrétienne, avec un Dieu personnel et communion de personnes, mais sous le mode d'une espèce de dilution de la personnalité dans un grand tout, dans un grand océan. Le yoga tel qu'il est pratiqué en Occident est quelque chose qui est passé par le tamis, par le prisme de groupes ésotériques, notamment la Société théosophique, groupe vraiment charnière et central, ensuite des acteurs comme Arnaud Desjardins dans les années 60, 70, etc. Et donc ce yoga n'est pas le yoga hindou, ce n'est même pas quelque chose qui est limité au seul, à la seule quête de gymnastique, de bien-être. C'est quelque chose qui a une logique spirituelle qui ne s'explique que par son inscription dans cette forme de pensée ésotérique. Justement, une quête de libération de l'ego, mais qui en même temps pense l'individu comme ayant en lui-même les forces suffisantes pour se réunifier avec un espèce de principe absolu.
Voilà. On va faire réagir le père Thibault et puis Guillaume-François Salingue sur, finalement, est-ce qu'il y a un danger ?
Avant de répondre à ça, je crois que c'est un aspect très important de bien penser que le yoga, dans son origine, la place du corps était finalement très peu importante. Le yoga, c'est avant tout par la méditation. On va pas entrer dans les choses techniques, mais il faut que l'atman, on va dire l'âme, finalement s'élève, se débarrasse du corps. D'où le paradoxe d'en faire aujourd'hui une méthode de relaxation du corps, parce que finalement il y a une contradiction. Pour se libérer effectivement de la réincarnation et rejoindre le Brahman, le grand tout, on va dire. Je simplifie évidemment. Mais c'est seulement, finalement, qu'en 1924, qu'il y a un certain Tirumalai Krishnamacharya, qui, finalement, voyant l'intérêt de l'Occident pour le corps, a choisi un type de yoga, qu'on appelle le Hatha Yoga, ou yoga de l'effort, qui introduisait des postures, les asanas, on appelle ça asana, et finalement, a mélangé finalement le hatha yoga avec du culturisme et de la gymnastique suédoise. Et c'est lui qui a inventé toutes les premières postures, la salutation au soleil, la position de la cigogne, etc. Et on a fait quelque chose qui était simplement de la détente. Mais c'est dans les années 60 que finalement, les Indiens qui vivaient vraiment ça comme une forme religieuse et venant dans nos régions, on dit « mais qu'est-ce que vous avez fait de notre yoga ? Vous en avez fait une gymnastique, c'est pas ça ». Ils ont réintroduit le yoga indien, c'est-à-dire la place de la méditation,
la dimension spirituelle,
de respiration, etc., pour libérer l'atman de voilà. Et c'est là où le yoga, qui était juste une gymnastique, finalement est devenu aujourd'hui a pris une dimension spirituelle.
Une spiritualité. On va y revenir après la pub, juste avant Guillaume-François Salin. Est-ce qu'il y a un danger pour l'Église, pour les chrétiens, vous qui accompagnez beaucoup de jeunes notamment, est-ce que vous avez l'impression que justement toutes ces spiritualités, le yoga en particulier peut-être, éloignent finalement de la foi chrétienne?
Je pense que oui, mais pas forcément au début. Surtout que le yoga, dans les pratiques originelles, les postures qui sont choisies sont opérantes par elles-mêmes, parce qu'il y a toute une démarche ésotérique, etc. Alors comment ça s'observe ? C'est que dans le temps, on voit que les personnes qui commencent à rentrer là-dedans, je le vois aussi dans le milieu psychologique, finissent, c'est une porte en fait, et s'ouvre à plein de choses. Parce qu'après le yoga, c'est les énergies, vous voyez, on en revient un peu à tout ça, et donc on va aller voir d'autres choses. Et généralement, les personnes que je vois, que ce soit en cabinet ou même au catéchuménat, ils commencent par le yoga, et puis après ils vont vers autre chose. Alors des fois, il y a certaines personnes, comme c'est un peu un fourre-tout, concrètement, ils font pas du yoga en soi, en fait, ils font 2-3 étirements, ils disent qu'ils font du yoga, ils font pas les vraies postures. Mais en tout cas, je pense que dans l'état d'esprit, c'est une ouverture après sur d'autres choses. Donc ça, je pense que le risque est là, et par contre, s'ils font les vraies postures, c'est opérant en soi. Et les dégâts vont pas être au début, en fait. C'est petit à petit, va y avoir une forme de disharmonie dans le quotidien avec les autres, et ça va pas se repérer tout de suite.
Quels sont les dangers justement de ces nouvelles spiritualités? Pour certains, dont vous, Adrien Bourg, ce sont les portes de l'enfer. Hein, donc, vous nous direz pourquoi. On se retrouve dans un instant, juste après la pub, pour continuer cette conversation.
Europe 1.
Europe 1.
C'est donc désormais officiel, le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes, comme si c'était une guerre en fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chantal, ma biche, on va où aujourd'hui? Toulouse, Strasbourg?
Ah, mais si c'est pour les saucisses, t'es sur la bonne route, Michel. Mais si c'est pour trouver une véranda, pas besoin de prendre la voiture, crois-moi.
Akena est partout en France.
Mais c'est...
Ils sont partout, je te dis, de Lille à Marseille et de Lorient à Mulhouse.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Chantal, reviens!
Ah, je te dis qu'ils sont partout.
Notre première rencontre, Manhattan, club de jazz. Je jouais sur mon piano nacré et c'est là que tu t'es mise à chanter.
Allez, dis-leur, c'était sur 10 ans demain.
Oui, j'avoue, j'avais vu sur ton profil que t'étais fan de jazz.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Provoquez le destin sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.
13h-14h, CNews, Europe 1, Enquête d'esprit. Émeric Pourbet.
On est ensemble dans Enquête d'esprit jusqu'à 14h. Vous ne bougez pas sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans un instant juste après la pause.
À l'écoute des entreprises avec AXA Prévention. Avec les crises successives, les troubles psychologiques sont à l'origine de 22% des arrêts de travail de longue durée en France. Éric Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'AXA Prévention. Que peut-on faire?
Il existe une méthode pour apprendre à aider. C'est le secourisme en santé mentale. Et AXA Prévention participe à cette initiative citoyenne et offre des formations aux petites entreprises qui en font la demande.
Alors justement, Eva Mazur, vous êtes secouriste et formatrice en santé mentale. En quoi consiste cette méthode?
Eh bien, à former des secouristes qui sont capables de repérer la détresse psychologique, d'adopter le bon comportement et d'orienter les personnes vers les professionnels compétents.
Éric Lemaire, il y a le mental, est-ce que le physique a aussi de l'importance?
Oui, c'est pour cette raison que nous offrons également, depuis 3 ans, des coachings d'activité physique aux petites entreprises qui en font la demande.
Très bien. Et si on veut en savoir plus?
Eh bien, il suffit d'aller sur notre plateforme En Forme au Travail sur le site axaprévention.fr.
Merci.
CNews Europe 1, Enquête d'esprit. Émeric Pourbet.
De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons du défi que constituent les nouvelles spiritualités, comme on les appelle, c'est-à-dire un fourre-tout, mais qui comprend notamment la magie, la sorcellerie, le spiritisme, et même parfois le développement personnel, même si évidemment il faut être nuancé en ce domaine. Et nous avons la chance aussi d'avoir sur ce plateau 3 invités qui ont touché de près ou de loin dans leur histoire, avant de les quitter, bien sûr, à ces nouvelles spiritualités. Le père Jean-Christophe Thibault, il est l'auteur notamment des Nouveaux visages de l'ésotérisme, c'est publié chez Arthège. Adrien Bourg, qui a écrit Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités chez Arthège. Et puis Guillaume-François Salin, qui fait de l'accompagnement, notamment la préparation à tous ces jeunes baptisés adultes et qui peuvent être concernés par ces phénomènes. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, quels sont les dangers de ces nouvelles spiritualités? Bien sûr, toutes ne sont pas à mettre sur le même niveau, mais néanmoins, Père Jean-Christophe Thibault, dont vous avez beaucoup étudié ces phénomènes, vous les avez connus même de l'intérieur, hein, avant de vous convertir. Quel est le vrai danger derrière tout cela?
Le danger, je pense qu'il faut le nuancer. Il y a un premier danger, et je pense qu'il faut faire la distinction entre les personnes qui pratiquent, qui vont faire des pratiques occultes. Là, le danger très clair, c'est que on peut créer des états modifiés de conscience, quelle que soit la technique, le spiritisme, à une certaine utilisation par exemple, parler du yoga, en particulier avec les exercices de respiration, hein, de souffle, plus exactement, où on fait de l'hypoventilation, hyperventilation. Tout ça, en tout cas, peut ouvrir des portes sur le monde invisible. Là, on parle évidemment, donc ça nous met dans un état de médiumnité. Et donc, on sait bien qu'on ne s'ouvre pas forcément aux réalités.
Le monde invisible, ce sont les esprits.
Sont les esprits. Alors, les anges, eux, ils sont très discrets. Parce qu'il
y a les bons et les mauvais.
Mais on sait aussi qu'il y en a qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent avoir une influence sur nous, et dont le but est de nous éloigner de Dieu. Et c'est là où ça on peut rejoindre également ce qu'on appelle l'ésotérisme, qui est plutôt un courant de pensée multiforme, hein, mais qui est très différent, enfin, qui se, même sur plein de points, s'oppose à la révélation judéo-chrétienne. Il n'y a pas de Dieu créateur, tout part d'un principe premier, etc., etc. Et donc le danger, là, il est surtout que, finalement, on finit peu à peu, même si on est chrétien, à croire, finalement, à entrer dans un monde un peu païen, on va dire, de paganisme, qui nous éloigne de la vérité, et qui, finalement, fait aussi, on va dire, le jeu du malin, du menteur, parce que son but, c'est de nous éloigner de Dieu. Alors, les dangers sont pas tout à fait les mêmes, mais finalement, le résultat est un peu équivalent, finalement.
Adrien Bourg, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience, puisque vous avez, comme Guillaume-François Salin, touché à ces nouvelles spiritualités, hein, comme on dit. Quel en est le danger? Et vous allez jusqu'à dire que, parfois, ça peut être les portes de l'enfer. L'appellation est forte.
Oui, la formule est forte. Et je pense qu'elle ne peut être comprise qu'avec un regard de foi, et c'est une réflexion. Alors évidemment, j'ai en tête aussi tout ce que vient d'évoquer le père Thibault sur les dangers concrets, immédiats, par le fait qu'on ouvre des portes à des entités invisibles, pas seulement de façon passive, mais de façon concrète, active. Par exemple, dans le spiritisme, on cherche à rentrer en contact avec bon, là, c'est les effets dangereux, ici et maintenant, pour telle personne ou tel groupe de personnes données. Mais la réflexion que je propose, c'est aussi la question des effets dans l'histoire de cette forme de pensée de cet ensemble de courants, de cette nébuleuse. Moi, je suis un cas un peu particulier, puisque je viens d'une famille athée, et les premières propositions religieuses qui m'ont été faites à la sortie de l'adolescence, c'était de l'ésotérisme savant. Dans un pays de tradition catholique comme la France, c'est surprenant. On pourrait dire, bon, n'importe quelle personne qui a une quête de la vérité ultime, on va lui proposer spontanément le catholicisme ou le christianisme à minima. Dans mon cas précis, c'était l'ésotérisme savant, René Guénon, ce type de lecture, avec adossé à cela des propositions de pratique, entrer dans des confréries initiatiques, etc. Si on regarde sur le temps long, on se rend compte, et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec le succès et la popularisation de plus en plus massive de ces courants, qu'en réalité, ce n'est pas simplement une réalité qui existe indépendamment de l'histoire religieuse telle qu'on la pense classiquement. Il y a une interaction permanente et une relation de concurrence qui existe au moins...
Qui est clairement revendiquée. Concurrence avec le christianisme qui est revendiqué par ces courants.
Non, mais qu'est-ce qu'on entend par raison ?
Véronique Jacquier.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Ésotérisme savant, ce sont des formes... Je pense que le grand nom de cette tendance, c'est René Guénon. C'est quelque chose.
Oui, d'accord, mais ça ne dit rien au grand public.
Alors, une revivification de ce qu'on va appeler la gnose, c'est-à-dire le salut par la connaissance, par une espèce d'illumination qui passerait par la connaissance intégrale, avec la proposition qui est faite de s'égaler à Dieu, de devenir un avec le principe suprême. On est totalement là en dehors de l'idée de communion, au sens où on l'entend dans le christianisme. C'est une autre logique, qui remonte à des temps très anciens et qui a reçu un regain de vitalité à partir de la Renaissance et qui est portée par des acteurs de façon ininterrompue depuis cette période. Voilà. Donc
oui, je reviens à ma question, pardon. La concurrence avec le christianisme, elle est revendiquée par ce courant?
Tout à fait, par certains de ces acteurs de façon très nette et très frontale, et par d'autres acteurs de façon beaucoup plus insaisissable,
insidieuse.
Une personne comme Arnaud Desjardins disait qu'il avait beaucoup de sympathie pour le catholicisme, mais que cette religion avait décrépit, qu'elle était incomplète.
C'est le baiser qui tue.
La compléter, voilà. Le baiser du Daï, il faut aller la compléter avec les apports orientaux. Et en réalité, quand on regarde exactement ce qui se passe, c'est une subversion de l'intérieur, une modification du cœur le plus profond. C'est la remise en cause de l'incarnation, la remise en cause de Dieu Trinité. On prétend qu'il y a une déité supérieure au Dieu Trinité. La remise en cause de la valeur des sacrements, la remise en cause de la transmission apostolique, et les évangiles eux-mêmes auraient été déformés, perdus, etc. Donc c'est tous les éléments les plus fondamentaux de la foi qui sont attaqués, parfois avec un grand sourire et avec beaucoup de sympathie.
Père Jean-Christophe Thibault, je vous vois opiner du chef, vous êtes d'accord avec ce qui vient
d'être dit? Je consonne tout à fait avec ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que, et c'est une pensée aussi, on fait une grande différence entre ce qui est exotérique, c'est-à-dire, en gros, les gens qui vont à la messe, enfin qui sont croyants, on dit, ben c'est très bien, mais ils n'ont qu'une petite partie de la vérité, et puis il y a pour l'ésotérisme, des initiés qui vont être finalement accédés à retrouver la religion d'origine qui serait diffractée dans toutes les religions. Et alors, vous voyez, il y a de l'orgueil aussi beaucoup par derrière, donc on est souvent regardé un peu de haut, parce que finalement, on fait une différence entre la religion et une sorte de super religion, mais réservée qu'à une élite. Et on y entre par initiation.
À la différence de l'Église, qui est ouverte à tous.
Et puis, alors, c'est le fameux secret, finalement. Il faut entrer dans un monde de secret. Et d'initiation en initiation, on accède à cette connaissance qui elle-même nous transforme, nous illumine. Et alors, avec une pensée où il y a un grand mépris pour le corps,
On n'est pas dans l'incarnation.
On revient à toute la pensée grecque, hein, du néoplatonisme, où finalement, on serait une étincelle du divin tombée dans le corps et il faut se libérer par la connaissance.
Guillaume-François Salin, j'aimerais que vous nous racontiez, vous aussi, vous avez touché, hein, avant de vous convertir, hein, vous avez été baptisé il y a 7 ans, je crois. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté ces courants de spiritualité?
Je voulais reprendre ce que disait le père Thibault.
Je vous en prie.
Saint Paul disait, dans la première lettre aux Thessaloniciens, discerner toute chose et garder ce qui est bon. Je pense qu'il y a deux excès, la diabolisation excessive et le contraire, l'angélisme, c'est-à-dire tout est beau. C'est un peu l'autre excès que traversent ces personnes qui vivent ces spiritualités. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie quête spirituelle parce qu'il y a un vide, la nature a horreur du vide. On est dans un agnosticisme théorique, c'est-à-dire personne ne se prononce sur Dieu, finalement c'est négligeable.
C'est une manière de l'évacuer.
Exactement. Et ce qui fait que c'est un athéisme pratique. On vit comme si Dieu n'existait pas. Et du coup, toutes les religions traditionnelles monothéistes mettent en garde contre le monde des esprits, le monde occulte, etc. Mais comme on est dans un athéisme pratique, eh ben, peu importe que je fasse du yoga, de la méditation transcendantale, etc., ou tout ce qui va être voyance, c'est pas grave, vu que finalement, peu importe qui est Dieu ou qui n'y est pas Dieu, c'est que moi qui compte. Et du coup, moi, dans mon propre parcours, au début, la nature hors du vide, j'avais une vraie quête spirituelle. Elle était sincère. Et le problème, c'est que j'entendais parler aux infos du catholicisme, j'avais l'impression que c'était la plus grande horreur de tous les temps. Je me disais, oh là là, faut surtout pas y aller. Et le catholicisme ne m'a jamais rien fait, mais je détestais le catholicisme. Donc, beaucoup de recul au niveau du catholicisme. Et je voyais sur les rayons, en psychologie, c'est-à-dire même dans mes études universitaires, des fois des sous-entendus sur tout ce qui est méditation, yoga, le bouddhisme, où on parlait ouvertement de tout ça. Hein, et qu'on disait, c'est très bien, c'est super. Donc j'ai commencé à rentrer là-dedans. Et comme je disais, le yoga, ça peut être une porte ouverte. Il y en a des fois, ils font pas vraiment du yoga, c'est juste des... Ils pensent en faire, mais ils font quelques étirements par-ci, par-là. Mais après, on continue. Et du coup, moi, j'ai commencé à lire des livres comme Frédéric Lenoir, voilà, des choses très larges, quoi. Et puis après, je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ces histoires
Frédéric
d'énergie
Lenoir, il faut peut-être le préciser, parce que c'est un ancien religieux, donc chrétien, qui a quitté ce monde-là, cette communauté, pour ensuite, effectivement, devenir un auteur à succès, hein, on peut le dire, de livres sur le développement personnel, comment on peut appeler ça?
Je pense que le terme développement personnel, tout ce qu'on a mis dans Nouvelle Spiritualité, le courant New Age, on pourrait le mettre là-dedans. En fait, sous couvert de philosophie, en fait, il propose une vision théologique, en fait. Je pense qu'Adrien en parlera mieux que moi, mais et du coup, c'est une porte d'entrée, parce qu'après, quand on rentre dans ces choses-là, après, on veut tester tout ce qui est énergie, après tout ce qui est médium, après tout ce qui est voyant. Et moi, à titre personnel, j'ai essayé tout ça. Alors, ça gargarise, hein. Moi, j'ai vécu des choses, pour moi, c'est inexplicable, hein. Quand un médium vous dit à quelle date telle personne est décédée, son prénom, les circonstances, etc.
C'est troublant.
C'est troublant. Et on se dit, ah là, il y a quelque chose de divin quand on a une vraie quête spirituelle. Sauf que ça, c'est la première étape. Je me rappelle d'une personne que je connaissais qui était voyante, qui a failli se convertir, qui ne voulait pas se convertir parce que quand on lui disait au niveau de l'accompagnement qu'il fallait qu'elle soit prête à renoncer à sa pratique médiumnique, c'est-à-dire à renoncer à ses pouvoirs, en fait, qu'elle a reçus d'une entité spirituelle. Là, il y a la peur.
Il y a de l'orgueil.
Je vais plus avoir la maîtrise, en fait. Je vais plus pouvoir faire ce que je veux.
Et comment on en sort, alors? Comment vous en êtes sorti?
Alors, du coup, déjà, je pense que la lecture d'ouvrages, j'ai bien été formé, en fait. Moi, j'étais accompagné par les Dominicains, des prêtres qui étaient vraiment formés, qui prenaient au sérieux ces questions-là. Parce que quand j'en discutais avec d'autres catholiques, et des fois, malheureusement, d'autres prêtres, ils prenaient ça pas très au sérieux. Et du coup, on se retrouve vite isolé. Donc là, j'avais un prêtre qui m'a vraiment expliqué ces phénomènes-là, qu'est-ce que c'est ces histoires d'énergie, pourquoi il ne faut pas y toucher, comment agissent ces médiums, ces voyants. Et là, je me suis senti écouté, je me suis dit « Ah, d'accord, ok ». Et il m'a expliqué une distinction importante, peut-être que vous pourrez reprendre, Père, c'est la distinction entre le pouvoir et le don. Et ça, c'est capital. Moi, quand je l'explique aux catéchumènes qui arrivent, ils comprennent assez vite. Le pouvoir, j'en fais ce que je veux, je l'utilise quand je veux. Et puis, je suis
un bien pour le mal.
Voilà, c'est ça. Alors, on peut avoir de bonnes intentions. Hein. Un médium peut faire ça et être très sincère. Hein. Le pouvoir, je l'utilise quand je veux. Le don, je le reçois. Il ne m'appartient pas. Il peut venir une fois. C'est-à-dire, peut-être qu'une fois, de manière miraculeuse, je vais prier pour quelqu'un et la personne va guérir. Mais je ne le possède pas. Et qu'est-ce que ça implique ? L'humilité. Je m'abandonne et je ne maîtrise pas.
On n'est pas dans l'orgueil que vous décriviez tout à l'heure.
Voilà.
Un commentaire, Père Jean-Christophe Thibault sur
Oui, je crois que c'est assez important parce que dans l'occultisme, les pratiques occultes, on veut maîtriser les choses pour un résultat immédiat. Il n'y a pas de recherche spirituelle parce qu'on parle de quête spirituelle, oui et non. Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu ou on se cherche soi finalement,
parce c'est centré sur son nombril parfois.
Souvent. Et il y a une confusion entre le divin et le soi. Hein. C'est souvent d'ailleurs, on découvre que Dieu c'est nous. Hein, vous serez comme des dieux, c'est pas très...
C'est assez séduisant, finalement.
Et c'est séduisant. Donc, c'est une recherche spirituelle. Alors, moi, je pense qu'au départ, on est dans un monde qui parle très peu de Dieu, des questions spirituelles, religieuses, mais on se pose tous la question du mystère. D'où vient, d'où on vient, pourquoi on est là, etc. Mais qu'est-ce qui est accessible ? C'est tout ce qui est à base d'ésotérisme. Vous allez dans une librairie. Hein.
Les rayons des librairies sont couverts.
Oui, et puis en plus, ça va toucher quelque chose du mystère. Ça va toucher... voilà, on pense qu'on va faire une expérience très séduisante. Tout seul, on n'a même pas besoin de faire partie d'un groupe. Dans un monde très individualiste, ça attire. Et c'est comme ça que l'on entre. Mais il y a un moment, il y a un prix à payer.
Lequel?
Et c'est là le. Parce qu'on pense qu'on maîtrise la magie, mais c'est elle qui nous maîtrise, parce que par derrière, à la manœuvre, il y a des forces, effectivement, pas neutres.
Le démon?
Le démon, les, voilà, hein, il faudrait développer hein, pour eux. Mais ils sont à la manœuvre. Et c'est là où on vit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est que quand ça tourne mal, c'est vers Dieu que les gens se tournent. Et comme on est dans un monde catholique, on cherche des catholiques, des prêtres, pour essayer de trouver une réponse.
Adrien Bourg.
Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la séduction qu'exercent ces courants, qui s'explique aussi par une des spécificités de la forme de pensée ésotérique. C'est-à-dire que on peut définir les caractéristiques un peu techniques sur les doctrines, les pratiques, etc., mais il y a un élément un peu surplombant, c'est cette manière de penser les choses, de manière de proposer aussi les choses, qui dit... qu'on va vous proposer plus et mieux que n'importe quelle voie institutionnelle. Et ça joue, c'est une forme une force de discrédit à l'égard de toutes les personnes qui se présentent comme les dépositaires d'une transmission qui est passée par un canal visible, la transmission apostolique, la succession des évêques, etc. Les prêtres qui sont...
Le côté institutionnel, en fait.
Le côté institutionnel. Et là, je pense que si on arrive à saisir cet élément de la forme de pensée ésotérique, qui est un discours, en fait, de surenchère, avec un petit côté publicité mensongère. On vous dit ceci, la voix officielle vous dit ceci, et moi je vous dis plus, je vous dis mieux. On vous propose ça, et moi je vous propose plus.
Ça doit mettre la puce à l'oreille.
Et ça, c'est un discours très, à mon avis, très dangereux pour justement le déracinement des gens à l'égard de la confiance qu'ils peuvent accorder aux voies institutionnelles.
Alors, face à cela, on va se tourner vers les religieux, les carmes, qui ont, justement, la question qui se pose, hein, c'est la réponse que doit apporter l'Église à cela. On parle notamment de la méditation de pleine conscience, qui a beaucoup de succès, mais finalement, chez les carmes, ces fameux religieux, eh bien, la question de la méditation, elle est bien ancienne, pratiquée depuis des siècles. Regardez ce reportage, il est signé Audrey Berthaud. Nous allons à Avon, en Seine-et-Marne.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Elle existe depuis les origines. L'oraison, la prière silencieuse et personnelle, rythme le quotidien des frères du couvent des Carmes d'Avon, comme nous l'explique Jean-Alexandre, frère depuis 20 ans.
C'est un type de prière particulier qui se distingue d'autres prières. Alors la référence pour nous, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu au XVIe siècle en Espagne, qui est vraiment celle qui a le plus écrit sur l'oraison et qui nous aide beaucoup à comprendre ce que c'est. Et donc la définition qu'elle dit, elle dit donc l'oraison, c'est une prière, alors elle emploie un terme un peu technique à l'époque, elle parle d'oraison mentale. Alors nous, mental, on comprend tout de suite l'esprit, mais à l'époque, on fait une distinction importante entre oraison mentale et vocale. Donc la prière extérieure, et la prière intérieure.
Chaque jour, 2 heures y sont consacrées en plus des temps de prière communs, Une réelle relation de confiance et d'amitié.
Un des points fondamentaux de la vie d'Oraison, que ce soit pour nous ou pour toute personne qui s'engage, c'est la fidélité au temps choisi. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que cette relation étant une relation d'amitié, elle doit être fondée sur une qualité de confiance, cette relation qui ne dépend pas simplement du sentiment. Et aujourd'hui, on est très très marqué par le sentiment, et c'est bon, l'affectif, etc., c'est bon, mais je ne peux pas faire dépendre des choix de durée simplement sur mes sentiments.
La communauté des Carmes date du XIIIe siècle. Dans le monde, 4000 frères sont recensés, dont une centaine en France, répartis dans 8 couvents.
Voilà un reportage signé Audrey Berthaud. Alors justement, j'aimerais qu'on s'interroge parce que on a parlé de vide spirituel que venait combler effectivement ces nouvelles spiritualités, mais finalement ce vide spirituel, est-ce qu'il n'a pas été laissé par l'Église qui aurait un petit peu dans cette hypothèse déserté le terrain? Est-ce qu'il faudrait qu'elle se réapproprie justement à travers ces trésors oubliés, Père Jean-Christophe Thibault?
Oui, effectivement, on voit bien que il y a eu une époque, on va dire, ça a commencé après-guerre surtout, l'Église a commencé à beaucoup utiliser la raison et au risque d'assécher. Donc on a mis un peu de côté et la prière et la vie mystique et aussi...
La piété populaire aussi.
La piété populaire, voilà. Et finalement, au risque finalement de se couper d'un élément essentiel constitutif de l'homme, qui est un besoin du mystère aussi, dont il y a quelque chose de beau. Et donc, il faut que l'Église, aujourd'hui, finalement, parce que le vide a été comblé, c'est les vases communicants.
Ça, la nature a horreur du vide.
La nature a horreur du vide. Donc là, forcément, toutes ces propositions sont nées aussi sur le fait que l'Église, finalement, avait un langage un peu élitiste, soyons clairs, parce que finalement, ça avait un peu asséché, j'allais dire, le message chrétien, alors qu'il est très large. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église a tout à fait intérêt à retrouver un peu, il faut reparler des anges, il faut reparler du monde invisible, il faut reparler de mystique, il faut revaloriser, j'allais dire, je pense, tout
les trésors enfouis.
Les trésors enfouis. Parce que c'est ça la vraie réponse. Et je pense que l'Église, ce dont elle a besoin pour se sortir, à mon avis, c'est d'abord. Elle a besoin de saints, des gens qui nous montrent Dieu. Il faut le voir, ça c'est important. Elle a besoin aussi de l'artiste, je pense. Et je crois que c'est très important, des gens qui touchent la sensibilité. Parce qu'on a un peu délaissé la sensibilité. Regardez tous les trésors des peintres, des musiciens. Et aujourd'hui, on
de a la liturgie chance. Aussi.
Et puis la liturgie, la beauté. Et on voit bien que même les jeunes aujourd'hui, c'est vers ces éléments-là. Donc je pense qu'il y a des pistes à creuser. Pour moi, c'est ça aussi. La liturgie, le monde, l'art. Je pense on a la chance d'avoir des grands artistes qui font des films, par exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de films sur l'ésotérisme, sur la magie, tout ça, un film, alors je pense à Steven Gunnell, par exemple, qui propose quelque chose sur le Sacré-Cœur. À mon avis, ça, c'est une antidote à tout ce qui va être le développement de l'ésotérisme et l'occultisme.
Véronique, Jacques.
Oui, vous nous parlez de la réponse de l'Église, mais moi, j'aimerais entendre les témoignages de Guillaume François et de Adrien Bourg, parce que vous avez été loin de l'Église, et après avoir touché aux nouvelles spiritualités, vous avez finalement adhéré pleinement à l'Église, et vous vivez maintenant une grande vie de foi. Alors, où est le point de bascule? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, mais non, le christianisme, c'est bien plus fort que ce que j'ai vécu avant?
Adrien Bourg.
Alors, c'est toujours très compliqué à raconter les chemins de conversion. On peut le faire en version brève.
S'il vous plaît.
Je devais rebondir sur ce qu'a dit le père Thibault pour ajouter un élément supplémentaire qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est le thème de la création. Pourquoi nous sommes là? Dans la perspective de ces nouvelles spiritualités, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on essaye de devenir Dieu, de devenir divin, mais il y a cette image qui est beaucoup employée de la petite vaguelette à la surface de l'océan, c'est une image qui vient de l'hindouisme, et la vaguelette prend conscience qu'elle n'est rien d'autre que l'océan, elle disparaît, elle devient ce grand océan, elle n'existe plus en tant que vaguelette. Dans la foi biblique, c'est autre chose. On a ce Dieu qui n'a absolument pas besoin de création, d'être, et qui pourtant, par pure gratuité, par pure surabondance, va créer un monde et va créer des êtres libres qu'il va vouloir unir à lui. Et pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il est un Dieu de communion. Il est un Dieu amour, communion de personnes qui peut nous unir à lui. Et l'horizon ultime que nous propose la foi chrétienne, c'est ça. C'est pas de se dissoudre dans le grand tout, dans le grand océan. C'est de entrer dans cette relation d'amour, d'amitié, de, comme le dit saint Paul, il me semble, de devenir par adoption ce que Jésus est par nature, fils de Dieu, et d'entrer donc dans cette grande communion. Et moi, ça, c'est un élément qui m'a évidemment bouleversé. Il m'a dit,
mais
Dieu
ça veut
même
dire très concrètement, pardon de vous couper, ça veut dire très concrètement aussi qu'il faut que les communautés chrétiennes, catholiques, soient accueillantes pour notamment tous les nouveaux baptisés. Là, cette année, on a vu les chiffres, hein, 12 000 adultes ou adolescents qui se font baptiser. C'est formidable, mais seront-ils accueillis? Quel accompagnement aussi on leur apporte? Je veux dire, ce sont des questions très concrètes également. Guillaume François, Salin.
Alors, pour, je pourrais parler après de l'accompagnement des néophytes, donc c'est-à-dire les baptisés récemment. Donc là, il y a un gros sujet. Pour ma conversion, pour faire court, moi, il y a une phrase du Christ qui m'a touché, c'était dans Jean, elle est très connue, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai testé plein de choses avant, qui m'ont apporté des frissons, peut-être même une forme de joie. Et avec le Christ, un jour en lisant l'évangile de Matthieu, j'ai senti cette présence du Christ vivant. Et je me suis senti vivant profondément. Ça ne m'a jamais quitté, non pas que du matin au soir, j'ai une présence du Christ sensible, mais ça a changé radicalement la profondeur de mon être. Ce n'était pas quelque chose de superficiel. Ça a vraiment touché, comment je pourrais dire avec une image, Saint-Augustin dit, tu es à l'intime de l'intime de mon être. Et là, j'ai senti que ça touchait à une couche vraiment profonde. Et le christianisme, vraiment, je trouve que c'est l'incarnation, c'est-à-dire que ça prend tous les aspects de la vie, que dans l'ésotérisme, ces spiritualités à côté, c'est toujours qu'une partie. C'est pas quelque chose de global, de complet, et que on dit que en Christ tout est récapitulé. Et ben, tous les aspects de la vie affective, la vie amoureuse, la vie professionnelle, le quotidien, tout ça dans le Christ est récapitulé. Et j'ai vraiment senti que le Christ se déployait dans toute la profondeur de mon être. Et j'en ai vécu des choses à côté, des trucs énergétiques, etc., qui galvanisent, qui sont peut-être même plus impressionnants de prime abord. Mais jamais rien qui donne autant la paix comme le Christ qui dit « Je vous donne ma paix ». Et à tous ceux à qui j'ai dit d'essayer de s'abandonner au Christ, les catéchumènes et des amis, mon propre père s'est converti, ils ont vécu ça. Ils se sont dit « Ah mais à côté, ces spiritualités ne pouvaient pas apporter la paix du cœur que seul le Christ peut apporter ».
Adrien Bourg, dans votre livre, vous parlez aussi de l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, notamment pour montrer en quoi est-ce qu'elle est un archétype, un exemple de la contemplation, de la méditation finalement. Parce que c'est ça aussi, le terme méditation de pleine conscience aujourd'hui, il séduit beaucoup. On a vu avec l'exemple avec les carmes d'avant, mais finalement, c'est accessible à tout le monde, enfin, à tous ceux qui veulent pratiquer cette méditation chrétienne.
Tout à fait. Alors, il y a cet épisode de l'évangile Marthe et Marie, et donc Marthe qui est accaparée par les activités pour recevoir Jésus chez elle, et donc qui se laisse entraîner, aspirer par la suractivité, donc une belle image de notre époque suractive. Et puis Marie-Madeleine qui s'assoit dans le tumulte, qui arrive à s'asseoir au pied de Jésus et à l'écouter, et qui se met donc dans une position de relation et d'écoute. Et là, je pense qu'effectivement, c'est un bon modèle pour nous dans une époque très agitée, d'arriver à trouver ces moments pour s'asseoir paisiblement, en paix, et se mettre à l'écoute.
Mais cette contemplation, cette écoute, elle s'adresse à quelqu'un. Je veux dire, la différence avec la méditation de pleine conscience,
tout à fait.
Où réside-t-elle selon vous ?
Eh bien, elle est dans le fait qu'on se met à l'écoute d'un Dieu personnel qui va s'adresser à nous et qui va attendre de nous une réponse. Et donc, une relation qui va s'établir sur la durée.
Qui vous parle.
Qui nous parle. Le Dieu biblique parle et... Le point de départ des commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu est le seul Seigneur, etc. Écoute. »
Véronique Jacquier.
Oui, j'imagine que quand on est à l'écoute de Dieu, du coup, il y a une forme de fécondité dans notre vie, que ce qu'il n'y a peut-être pas justement quand on est à l'écoute de son ego. Non, c'est ça aussi la plus-value de la religion chrétienne.
Oui, parce que finalement, par la prière, on cherche une extase, on se tourne vers un autre. Tandis que dans toutes ces techniques, finalement, on se tourne vers soi, mais on tourne en rond. Enfin, il y a quelque chose de très nombriliste, et finalement, on tourne vite en rond. On est vite. Et pourtant, la grosse différence aussi, enfin, je suis aussi un converti, un peu plus ancien que mes deux amis, mais finalement, on est aussi dans quelque chose qui se veut performatif. C'est-à-dire, il faut toujours avancer, il faut toujours aller plus loin. Connaissance, d'ailleurs, une vie ne suffit pas, c'est pour ça qu'on croit à la réincarnation. Parce que comme le salut est donné par la connaissance, mais aussi par un certain nombre de pouvoirs, finalement, on est toujours en deçà. Et on se déçoit soi-même. Enfin, moi, je me souviens, je finissais par me croire mauvais. Et le premier effet, moi, de la conversion, enfin, cette rencontre avec le Christ, c'est une réconciliation avec moi-même. Dieu m'a montré qu'il m'aimait tel que j'étais. pas tel qu'il faut être. Et ça, il y a quelque chose aussi de très important et très apaisant qu'on se reçoit de Dieu, c'est qu'il nous apprend à être nous-mêmes, non pas quelque chose que l'on voudrait construire, un peu comme dans le développement personnel, où il faut atteindre le bonheur, mais on
une performance
jamais.
Une performance un peu idéale. Il nous reste malheureusement très peu de temps. J'aimerais peut-être pour conclure que vous nous disiez qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ces gens qui sont attirés par ces nouvelles spiritualités, en quelques mots, pardon, hein, mais à commencer par vous, Guillaume-François Salin.
Je dirais d'abord que vous ne trouverez pas la réalisation de votre être dans ces spiritualités. Ça va vous laisser un vide. Posez-vous les questions dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes vraiment si heureux que ça? Est-ce que ça produit des fruits? Nous, on appelle ça des fruits, c'est-à-dire des effets positifs dans votre travail, dans votre famille. Est-ce que ça vous connecte plus aux autres, pas que à vous-même? Est-ce que ça vous ouvre? Est-ce que vous êtes plus humble? Est-ce que vous êtes capable aussi d'accepter ce qui est incompréhensible, la souffrance, le fait de pas tout maîtriser? Voilà, moi, je poserai ces questions-là.
Adrien Beaubourg.
Bien, moi, je pense que je poserai à ces personnes la question de l'horizon qu'ils se fixent, et je ne peux faire que répéter ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'ils souhaitent, c'est une espèce de dissolution de leur personne dans un grand océan impersonnel, la déité sans nom, sans visage, etc., ou est-ce qu'ils veulent accéder à ce que Dieu nous offre gratuitement, c'est-à-dire la divinisation entendue au sens chrétien du mot, c'est-à-dire l'entrée dans cette communion éternelle qui est l'essence même de Dieu et qui nous offre...
Mais qui garde l'identité de la personne.
Qui garde l'identité de la personne.
Jean-Christophe Thibault, le mot de la fin.
Moi, je dirais qu'avant tout, il faut être en ouverture. C'est-à-dire qu'on veut chercher... On est dans une société très individualiste, où on ne fait pas confiance à l'autorité. Mais je pense que recevoir de Dieu, être en esprit d'ouverture, faire attention à tout ce que l'on peut dire, c'était intéressant ce qui est dit. C'est vrai que la vision qu'on a du judéo-christianisme est souvent très négatif, mais il y a une amende qu'il faut aller chercher, et c'est de se dire le bonheur nous est donné, mais il n'est pas à conquérir, il est à recevoir.
Merci, merci beaucoup. Je renvoie à vos ouvrages pour approfondir. C'est le mot de la fin. Père Jean-Christophe Thibault, donc, votre ouvrage « Les nouveaux visages de l'ésotérisme » chez Arthège, Adrien Bourg, « Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités » toujours chez Arthège, et puis Guillaume-François Salin. Donc, on peut vous trouver donc dans un établissement catholique d'Arcachon où vous officiez, si je puis dire, en termes pastoral. Merci aussi à Véronique Jacquier, à Aurélie Lucano. Un dernier mot, Véronique, sur le contenu de France Catholique cette semaine.
Oui, le dernier numéro de France Catholique qui fait sa une sur le peintre du XVe siècle, Van Eyck, à l'occasion d'une grande exposition au Louvre, et ça permet de redécouvrir le courant spirituel, le renouveau de la foi au XVe siècle. C'est voilà. Sur abonnement, bien sûr, et sur france-catholique.fr.
On parlait du beau et de l'art. Merci aussi aux équipes techniques de CNews. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons à l'occasion du 1er mai de la spiritualité au travail. Et oui, c'est quelque chose aussi de très concret, la spiritualité. Merci d'avoir été à notre écoute et vous le restez, bien sûr, sur CNews.
Enquête d'esprit, 13h-14h, CNews Europe 1.
Merci beaucoup Aymeric Pourbet. Enquête d'esprit revient dimanche prochain de 13h à 14h sur Europe 1 avec CNews pour éclairer l'actualité d'un point de vue spirituel et philosophique. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Alessandra Martinez pour l'éphéméride, le saint du jour sur Europe 1.
Chers amis, bonjour. Saint Anselme est né près d'Aosta, au pied des Alpes, du côté italien, en 1033 ou en 1034. Son père étouffe sa vocation religieuse, ce qui va le conduire sans doute par réaction à mener pendant plusieurs années une vie dissolue. À la mort de sa mère, il est désespéré. Il entame alors une vie d'errance en Bourgogne, puis en Normandie. Mais il est repéré un jour par le père abbé de l'abbaye du Bec qui voit en lui une âme d'exception. Anselme va même lui succéder au bout de quelques années. Il est ensuite nommé archevêque de Canterbury en Angleterre et il va s'opposer au roi lors de la querelle des investitures, ce qui lui vaut de partir en exil pendant de longues années. Il ne retrouvera son siège que 3 ans avant sa mort, en 1109. Anselme est docteur de l'Église. C'est l'un des plus grands philosophes du Moyen Âge. On lui doit notamment la fameuse preuve ontologique de l'existence de Dieu. Je vous la cite. Dieu est synonyme de perfection, or l'existence est un des éléments de la perfection. Donc Dieu existe. Pour finir, je vous laisse méditer cette belle pensée de Saint Anselme. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao.
Merci beaucoup Alessandra Martinez et à dimanche prochain sur Europe 1. Demain, c'est Thomas Hill que vous allez retrouver dans Culture Média comme tous les jours de la semaine sur Europe 1 du lundi au jeudi de 9h30 à 11h. Au programme demain de votre émission de référence sur les médias, Thomas Hill recevra l'actrice Virginie Ledoyen à l'affiche du film Le Mangeur d'âmes qui sort en salle mercredi. Un film adapté du roman à succès d'Alexis Lepsker qui sera également en studio. Culture Média, c'est donc demain de 9h30 à 11h avec Thomas Hill, ses chroniqueurs et ses invités sur Europe 1. Pour l'heure, l'après-midi se poursuit avec Ondelat raconte. C'est dans quelques instants avec Christophe Ondelat. A tout de suite sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chantal, magnifique ton pool house. Mais où est donc la piscine?
Eh bien, figure-toi que mon pool house Akena est multifonction.
C'est vrai?
Parfaitement. Cuisine en été, local de rangement en hiver, espace de jeu pour les petits-enfants et même salle de sport. Ça t'embauche un coin, non?
Akena, la reine des vérandas.
Et du pergola.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en